Bon bah on va commencer. Bonsoir déjà, merci à toutes et tous d'être venus. Et puis juste pour vous redire, c'est la deuxième discussion dans un cycle sur autour des luttes de l'année 73. Donc il y a deux semaines on avait parlé des maoïstes. Cette fois-ci donc on va parler avec Georges Ugali, ici présent, qui est prof à l'université de Bourgogne, prof de sociaux, et qui a écrit plusieurs livres sur, donc, sur l'affaire LIP. Et la semaine prochaine, donc mercredi 29, on parlera du coup d'état de Pinochet au Chili, de l'expérience aussi de l'unité populaire, le gouvernement socialiste qui avait été mis en place avant ça, et de l'expérimentation, la mise en place du néolibéralisme et du libéralisme autoritaire, comme on pourrait dire, au Chili. Voilà, ça sera mercredi prochain à 18h, au même endroit. Et je vais laisser la parole à Georges, qui va faire une présentation, puis après vous pourrez poser des questions.
Intervenir.
Voilà, jusqu'à
20h15, ouais, 20h15, c'est bon. Bon.
Ensuite, il y aura à manger et puis il y aura des films. Ensuite, on pourra regarder des petites vidéos dans le cinéma. Voilà.
Alors, donc oui, ce soir, je vais vous parler de LIP j'en ai pour à peu près trois quarts d'heure, hein, à peu près suivant le, peut-être un peu plus suivant le rythme auquel je parle. Donc, j'ai intitulé cette conférence LIP 73. Une réponse ouvrière radicale et victorieuse au chômage de masse. Alors, cette année, 2023, on fête le cinquantenaire du conflit LIP, qui s'est tenu à Besançon, hein, pas très loin d'ici, et qui s'est achevé par une victoire, faut le souligner, parce que c'est généralement les victoires, des grandes victoires, il n'y en a pas beaucoup, une victoire temporaire, ça c'est vrai, hein, sur le chômage, et contre les restructurations industrielles. Alors, il y a eu la semaine dernière à Besançon un grand colloque international. Ce matin, j'étais à une commémoration organisée par la CFDT. Demain, on est mercredi, là, en fin de semaine, il y a Alternative économique qui fait encore une activité avec une table ronde à laquelle je participe, et avec d'autres. Hein. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal d'activités autour du conflit. Bon. Alors, ce conflit, j'insiste bien sur le terme conflit, parce qu'il ne s'agit pas d'une grève au sens classique du terme, vous allez le voir. Hein. Et si ce conflit, il est resté dans les mémoires des plus anciennes générations, évidemment, il est quand même nécessaire pour les plus jeunes, dans un premier temps, de rappeler quelques moments forts. Hein. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai, sous la forme de trois propositions, de rappeler l'intérêt, à mon sens toujours actuel, de ce moment clé, d'une histoire qui dépasse largement l'année 73 et qui court jusqu'au début des années 80, on peut dire jusqu'en 83, 84, 85 même. Hein. Alors, d'abord, une petite contextualisation. Dans les années 60-70, Besançon, et plus largement le département du Doubs, hein, est réputée pour, donc Besançon, la ville de Besançon, hein, est réputée pour être la capitale de l'industrie horlogère nationale. Il y a dans cette ville, ou à proximité, hein, il y a de nombreuses entreprises de taille moyenne et quelques grandes entreprises, dont une qui s'est installée au début des années 60, qui s'appelait Kelton Timex, bon, qui s'appelle toujours, même si elle n'a plus du tout la taille qu'elle avait. Et dans cet ensemble, dans cette multitude de petites et moyennes entreprises, il y a une entreprise qui se détache très largement du lot, c'est la manufacture LIP. Hein, la manufacture LIP, c'est une très ancienne entreprise d'horlogerie qui a été créée au 19e siècle, en 1867 pour être présent. Pour être précis, pardon, par un artisan horloger d'origine alsacienne qui s'appelait Emmanuel Isaac Lippmann, donc d'origine juive. enfin juif même, pas rien que d'origine, il était juif. Cette entreprise, il l'a installée d'abord au centre-ville de Besançon, et puis elle a été déménagée en 1962 dans des locaux très modernes, même on peut dire les plus modernes qu'on puisse imaginer. Elle est donc en 1962 par un descendant du fondateur, donc qui s'appelle désormais Fred Lippe. Il a écarté la partie Lippmann pour gommer hein, les ascendances juives. D'ailleurs, une partie de sa famille a été exécutée pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon. Son père même, son propre père, est mort en déportation. Ce Fred Lippe, c'est un personnage, un patron assez traditionnel, despote local, hein, avec des ambitions très importantes, et il va donner un élan important à l'entreprise qui va salarier rapidement un peu plus de 1000 ouvriers, dont de nombreux horlogers. Il n'y a pas que des ouvriers, aussi des ouvrières, j'y reviendrai. Hein. Le personnel de cette entreprise, cette très grande entreprise, la plus grande entreprise française en fait, hein, le personnel d'encadrement vient de l'École nationale d'horlogerie, ce qu'on appelle l'École d'Horloge, hein, qui existe toujours à Besançon, hein, qui existe toujours à Besançon, et de cette École nationale d'horlogerie sont issus les ingénieurs, les techniciens. Hein. Alors je l'ai dit tout à l'heure, Lippe c'est une manufacture d'horlogerie, c'est-à-dire que la totalité des composants de la montre sont fabriqués dans les ateliers de Lippe. Hein. Il faut savoir que dans une montre mécanique comme ça, il peut y avoir une montre un peu standard, il peut y avoir jusqu'à 400 pièces, micro-pièces, petites pièces, hein, dans une montre. Hein, donc, évidemment, des pièces très, très précises et pointues. Bon. Alors, à côté de ce personnel hautement qualifié, la mise en œuvre des techniques de production de masse va générer le développement d'une catégorie d'OS, pratiquement la moitié du personnel, hein, presque pas tout à fait 600 hein, personnes, qui, elles, sont des femmes, hein, des femmes qui sont vouées à un travail, comme le sont les OS, hein, un travail monotone et répétitif.
Est-ce que tu peux préciser OS?
OS, c'est ouvrier spécialisé, oui, alors je pensais que c'était un terme qui était... Donc, il y a des OP, des ouvriers professionnels, hein, donc ça, c'est les horlogers qui ont une importante qualification, élabore les modèles, les ébauches, etc. Et puis, il y a des OS, les ouvriers spécialisés, qu'en fait, sont des ouvrières spécialisées, hein, qui, elles, travaillent à la chaîne et qui assemblent les différentes pièces, hein, avec un rythme de travail extrêmement accéléré, extrêmement précis, comme le font les OS dans l'automobile sur la chaîne, hein, qui montent les différentes parties d'un moteur. Bon, là, évidemment, c'est un travail de précision. Donc, ces OS, elles travaillent sous binoculaire. Hein, elles sont toute la journée à prendre des pièces et puis les monter avec le tapis roulant, quoi, avec la chaîne. Hein. À côté de l'horlogerie, Lippe produit également des armements. Hein, il y a une division armement. Et de la machine-outil. Bon. Une antenne va être également créée à Ornans, donc c'est une petite ville à quelques kilomètres de Besançon, et c'est une ville, enfin c'est une entreprise, il y a à peu près 120 salariés dans cette entreprise. Hein. Au total, au moment du conflit en 73, à peu près un peu moins de 1300 personnes travaillent dans cet ensemble Lippe. Hein. L'entreprise produit des montres. Haut de gamme, disons moyen haut de gamme, hein, moyen haut de gamme, qui sont distribués dans un réseau traditionnel qu'on appelle les HBO, HBJO, horlogers, bijoutiers, joailliers, hein, donc c'est les magasins de ville qu'on voit qui vendent de l'horlogerie, qui vendent des bijoux parfois, tous les cas des magasins très spécialisés. Hein. Cependant, avec les Trente Glorieuses, le marché de la montre évolue fortement dans les années 60 et l'entreprise Kelton, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui s'est installée, alors c'est 57, voilà, l'année exacte de son installation à Besançon, elle offre un modèle complètement différent de développement en produisant en masse des montres de moindre qualité, à bas coût, qu'on trouve partout, hein, qu'on trouve partout, dans les hypermarchés, dans les bureaux de tabac, n'importe où, hein, voilà, pas dans des magasins spécialisés. Bon. Voilà, campé en quelques éléments, la situation de l'entreprise dans les années 60. Du point de vue syndical, l'entreprise LIP est marquée par l'implantation de deux sections syndicales. Je laisse de côté les cadres qui ont une section CGC, mais ils ne jouent pas un rôle important. Donc la CGT d'un côté, historique, hein, la section des ouvriers de la métallurgie, la CGT et la CFTC, puis la CFDT à partir de 64. Donc si au départ la CGT est majoritaire aux élections professionnelles, la CFDT va peu à peu gagner en ampleur, hein, au fil des années, jusqu'à faire jeu égal avec la CGT. Ajoutons, pour compléter le tableau, pour être absolument complet dans en la matière, que dans l'antenne d'Ornans, il y a FO, une petite section FO, qui est également représentée, mais qui n'occupe qu'une place assez marginale. Bref, si on regarde, point de vue syndical, FO, CGC, CGT, CFDT, en sachant que les deux dernières, CGT et CFDT, ce sont celles qui vont jouer un rôle important. Alors, ces responsables CFDT, donc ils viennent de l'ancienne CFTC, dont ils ont transformé profondément les pratiques au moment du passage de la CFDT, de la CFTC à la CFDT. Et ils sont très conscients, ces militants d'origine chrétienne, de la place et de la force incontournable que représente la CGT. Et très rapidement, dès la fin des années 50, des relations unitaires sont nouées tout au long, qui vont se prolonger tout au long des années 60. Et de ce point de vue-là, on peut dire que mai 68 va constituer un moment important de l'histoire du syndicalisme dans l'entreprise, puisque la CGT et la CFDT vont s'opposer sur la manière de mener la grève. Les délégués CGT étaient favorables à fermer l'usine, hein, empêcher les salariés de travailler, tandis que les délégués CFDT vont s'opposer au blocage et font rentrer les salariés dans l'usine et les appellent à une assemblée générale où ils débattent, ils discutent, et la grève est votée après débat, après controverse. Hein, ça va permettre aussi l'élection d'un comité de grève durant mai 68, hein, avec des assemblées générales assez régulières. Bon. Le résultat de mai 68, c'est qu'il y aura un groupe de travailleurs et de travailleuses, d'ailleurs, qui vont s'impliquer, hein, dans la grève de mai 68, en mai et en juin, en étroite collaboration avec les délégués CGT et surtout CFDT, qui fait que au moins une partie des salariés, qui n'étaient pas nécessairement syndiqués à cette époque-là, hein, vont s'approprier le mouvement et vont permettre une situation assez exceptionnelle sur la place de Besançon et même au niveau national, puisque les assemblées générales décide, hein, déjà au moment de 68. Bon. Évidemment, le résultat, c'est que le syndicalisme va sortir très renforcé de cette pratique démocratique, en particulier la CFDT, hein, qui va gagner de nombreux adhérents en permettant des formes de démocratie et d'inclusion des salariés dans la lutte sociale. D'ailleurs, mai 68 va permettre l'obtention d'acquis extrêmement importants. En particulier, c'est un cas là aussi assez rare, hein, aussi bien dans la profession qu'au-delà, ils vont obtenir l'échelle mobile des salaires, hein, donc c'est-à-dire des mécanismes d'augmentation des salaires chaque fois que l'inflation progresse, les salaires sont alignés sur le taux d'inflation pour qu'il n'y ait pas de perte de salaire. Et plus important encore, sans doute, du point de vue des syndicalistes, le droit à l'information pour l'ensemble des salariés. Il y aura ainsi, dans les années d'après 68, un immense panneau syndical que les organisations syndicales rempliront, hein, quotidiennement, quasiment, avec des affiches, avec les tracts, avec de la presse, etc., qui permet aux salariés du rang de s'informer. Bon. D'ailleurs, le patron, Fred Lip, se rend bien compte du succès de la chose, hein, et de la force du mouvement syndical, et il essaiera, dans les années qui suivent, de rogner sur ses acquis. Alors, c'est un patron, je l'ai dit, assez despote, hein, il était connu pour des frasques qu'il avait fait, bon, passons sur ces détails-là, mais c'est pas un bon gestionnaire. C'est pas un bon gestionnaire, il a une gestion assez erratique et il est obligé, dès la fin des années 60, même un peu avant 68 d'ailleurs, avant mai 68, il a déjà des contacts avec des capitaux extérieurs et ça va se traduire par une prise de participation par une très grande entreprise suisse qui s'appelle Ebauche SA. Et en fait, Ebauche SA, ça existe toujours, hein, plus sous ce nom-là, c'est Swatch. Hein. Aujourd'hui, c'est Swatch, un des principales entreprises de l'horlogerie suisse. Bon. Et face à des problèmes, donc les mois et les années passent, hein, après 68, et face à des problèmes financiers de plus en plus importants, Ebauche SA va augmenter sa participation dans l'entreprise jusqu'à devenir... l'actionnaire majoritaire, et il va, en 1971, Ebauche SA va se débarrasser du fondateur, hein, Fred Lip. Bon, se débarrasser entre patrons, rassurez-vous, il ne part pas les mains vides, hein. Il a une belle prime et tout se passe bien pour lui. Bon. Donc un nouveau PDG est nommé, et évidemment complètement dévoué au nouvel actionnaire majoritaire, et on peut dire le projet d'Ebauche SA et de se débarrasser de l'atelier de mécanique, ainsi que de celui de l'armement, pour se concentrer sur l'horlogerie, en mettant fin à la manufacture, donc à la production de toutes les pièces, pour profiter du haut degré de compétence de la main-d'œuvre, et transformer l'usine en une grande entreprise d'assemblage des différents composants de la montre, hein, mais ces composants, ces composantes, ces pièces, seront désormais fabriquées en Suisse. Hein. Donc, pourquoi il fait ça? Ben parce que il faut savoir que la Suisse ne fait pas partie, déjà à cette époque-là, et encore moins maintenant, enfin toujours pas maintenant, ne fait pas partie de l'Union européenne. Hein, bon, ça ne s'appelait pas l'Union européenne à l'époque, mais peu importe, de l'Union européenne. Et donc, quand ils veulent vendre des montres en France, par exemple, bon, ben, y a des problèmes administratifs, des problèmes de taxes. Et d'avoir une entreprise qui fabrique des montres directement en France, évidemment, pour eux, ça leur met un pied à terre sur le marché européen. Hein, bon. Alors, après plusieurs mois de dysfonctionnement, des commandes qui ne sont pas honorées, des délais de fabrication qui ne sont pas respectés, du chômage technique à répétition, finalement, le PDG dépose, le nouveau PDG dépose le bilan le 17 avril 1973 et il démissionne. Hein, après le dépôt de bilan, il démissionne. Bon. Donc on peut dire le vide est fait, hein, le vide est fait, il n'y a plus d'interlocuteur. Bon. Et donc celui qui va prendre le relais, c'est le tribunal de commerce qui immédiatement nomme deux administrateurs provisoires. Bon. Alors va commencer un affrontement qui va durer plus d'un an pour le maintien de l'emploi, hein, et les syndicalistes refusent d'entrer en grève. Ils refusent d'entrer en grève, ils refusent la perspective de la grève, mais ils vont développer une action pour abaisser les cadences, hein, abaisser les cadences pour permettre aux salariés de dégager du temps pour réfléchir ensemble aux actions à mener. Hein, aux actions à mener. Et ça peut sembler assez facile, assez simple sur le papier de baisser les cadences, mais en fait, c'est pas simple du tout parce que les chefs sont toujours là et ils font des saisies sur salaire, ils menacent de licenciement les ouvrières qui ne travaillent pas assez rapidement, et les ouvrières elles-mêmes, elles sont, les ouvrières et les ouvriers, hein, mais surtout les ouvrières, parce que c'est elles qui assurent la production sur les chaînes de montage. Les ouvrières, elles sont tellement habituées au rythme effréné de gestes répétitifs qu'elles ont le plus grand mal à freiner, hein, en fait, leur cadence de travail. Bon. Alors, finalement, bon, après bien des difficultés, ça se met en place. Et un premier appel dans la ville à manifester est lancé aux travailleurs de l'IP. Et une première manifestation a lieu à Besançon avec plus de 5000 salariés de différentes entreprises qui viennent soutenir le mouvement lancé à l'IP. Bon. Et puis, le 5 juin, la décision est prise d'occuper l'usine. Bon. La semaine suivante, à l'occasion d'un comité d'entreprise, les administrateurs provisoires viennent et décision est prise de les séquestrer. Hein, de les séquestrer. Bon. Une ouvrière a la curiosité de fouiller la serviette d'un des administrateurs provisoires, hein, et elle découvre des documents accablants qui détaillent le plan de liquidation d'une grande partie de l'entreprise et la mise au chômage de plusieurs centaines de salariés. Ces documents ont été publiés, hein, ils sont bien connus. Il y a un livre qui leur est réservé, hein. Il y a en particulier un papier où il y a marqué 480 à dégager, hein. Voilà, comme si c'était des poubelles, hein. 480 salariés à dégager. Bon. Alors c'est la stupeur parmi les ouvriers et les ouvrières parce que bien que depuis des semaines les délégués les aient avertis des menaces réelles qui pesaient sur eux, beaucoup ne pensaient pas que des licenciements leur pendaient au bout du nez. Hein. Voilà, il y allait peut-être avoir quelques restructurations, peut-être des efforts à faire, mais en tous les cas, pas du tout une décision qui faisait que pratiquement la moitié, un peu moins de la moitié d'entre eux, allaient être licenciés. Alors, le préfet envoie les CRS pour libérer les administrateurs liquidateurs et bon, ils sont libérés hein, face à l'arrivée des CRS. Avant que les CRS interviennent, ils sont libérés, ils décident de les libérer. Et les salariés, en fin d'après-midi, au début de soirée, rentrent chez eux après cette opération. Quelques-uns, un certain nombre, 20, 30, 40, 50, bon, hein, c'est difficile à savoir, personne n'est très précis là-dessus. Un petit groupe, en tous les cas, reste sur place et décide de mettre à l'abri le stock de montres, hein, le stock de montres qui représentait une valeur de plusieurs millions de francs. Hein, à l'époque, c'était évidemment une somme très, très importante. Et durant la nuit, un ensemble de voitures va se succéder pour aller déposer ces montres, ces précieuses montres, dans des caches qui, soit dit au passage, ne seront jamais découvertes. Hein, malgré les enquêtes policières qui ont été conduites avec des interrogatoires, la présence de RG dans les cafés, dans les assemblées générales, etc., jamais personne n'a lâché le morceau, ils n'ont jamais réussi à découvrir où étaient cachées les montres. Hein. Alors cette action est complètement minoritaire, hein, complètement minoritaire. Elle a été décidée à quelques dizaines dans la nuit, hein, dans la nuit, dans une improvisation à peu près totale, hein, et le lendemain, elle est rapportée à l'Assemblée générale quotidienne, soumise à l'Assemblée générale, donc le 13 juin, et là, c'est pardon. C'est l'explosion. Hein. Les salariés donnent à la quasi-unanimité leur approbation à ce qui, d'un point de vue légal, hein, n'est jamais autre chose qu'un vol. Hein, qu'un vol. Bon. Alors, dans les jours qui suivent, on peut dire l'affaire LIP fait la une de la presse française et une nouvelle manifestation est organisée dans les rues de Besançon. Tout indique que la constitution d'un trésor de guerre, c'est ainsi qu'il va être dénommé, reçoit un large écho, puisque ce ne sont pas moins de 12 000 personnes, début juin, mi-juin, qui défilent dans les rues de Besançon. Il faut savoir qu'à l'époque, Besançon, c'est 110 000 habitants, hein, 10% de la population, l'équivalent de 10% de la population des différentes entreprises qui accompagnent les LIP. Alors, les premiers échos de la mobilisation commencent à être publiés dans la presse nationale, international, hein, qui va peu à peu couvrir le conflit, et un écho européen a lieu, puis même mondial, puisque des télévisions, des journaux, des envoyés spéciaux russes, américains, japonais, anglais, allemands, hollandais, je vous en passe, c'est des meilleurs, belges, se rendent à Besançon pour couvrir le conflit. Hein. Ce conflit a lieu sous l'égide d'une assemblée générale quotidienne, hein, et va être mis sur pied, vont être mis sur pied 5 commissions qui organisent la mobilisation du plus grand nombre, avec une véritable submersion finalement des sections syndicales. Ajoutons un autre élément qui est là aussi une particularité du conflit libre, c'est que des travailleurs et des travailleuses vont créer un comité d'action. Hein, comité d'action. Alors, c'est pas tout à fait la même chose qu'un comité de grève, qui est normalement l'émanation des salariés. Là, c'est des salariés bénévoles, volontaires, dont certains sont syndiqués, aussi bien à la CGT qu'à la CFDT, d'ailleurs. Ce comité d'action rassemblera jusqu'à 120-150 personnes, qui va être un noyau, hein, dans l'animation de la grève. Hein, dans l'animation de la grève. Et on retrouve parmi ces membres initiateurs plusieurs des gens qui avaient, au moment de mai 68, fait partie de ce petit groupe informel, hein, et qui s'était renforcé avec les mobilisations des années 70. Bon. Notez au passage que l'inspirateur du comité d'action, qui a été créé formellement au mois de mai 73, c'est un prêtre ouvrier dominicain qui était venu s'établir à Lippe après 68 et qui s'appelait Jean Ragnès. Sous l'impulsion de la section CFDT, décision est prise de remettre en marche une chaîne d'assemblage de montres. Il s'agit, l'objectif à venir, hein, dans cette usine occupée, il s'agit d'assurer le paiement des salariés par la vente des montres produites et d'une partie de celles qui ont été mises de côté, hein, celles du trésor de guerre. Le journal Libération, en pleine phase post-68, hein, commence à développer la thématique autogestionnaire. Et il y a une photo qu'on voit à peu près partout, hein, qui est apposée sur les murs de l'usine, qui pourrait renforcer ce sentiment, puisque sur la banderole, il y a marqué « On fabrique, on vend, on se paie ». Et en effet, en plein été, le 2 août, sous une foule immense de reporters, hein, de caméramans, est organisée la première paix sauvage. Ça, c'est la caractérisation des journalistes. Les salariés et les syndicalistes parlent de paix ouvrière. Hein, dans les locaux occupés, chacun touche sa paie. Bon. Alors, ça n'empêche pas que les pouvoirs publics poursuivent leur... et les pouvoirs économiques poursuivent leur œuvre, puisque le 6 août, la réponse à cette paix ouvrière, on peut dire, c'est que tous les salariés reçoivent chez eux leur lettre de licenciement. Le gouvernement interpellé va envoyer un négociateur qui s'appelle Henri Giraud, et Henri Giraud... bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films, c'est une espèce de papy... Cato, qui est gérant d'une petite société, en tous les cas bien éloignée de l'industrie horlogère, et il arrive à Besançon et il vient à l'Assemblée Générale, puisqu'il n'y a pas d'autre endroit où vous pouvez rencontrer tout le monde, et il annonce à l'Assemblée Générale, ça on le voit aussi dans les films, hein, eh bien, voilà, je suis... un brave patron, moi aussi, j'ai connu les difficultés, j'ai même été au chômage, vous ne pouvez pas imaginer, je compatis à votre sort, et je reçois la CGT à 15h, la CFDT à 16h, les cadres à 17h, etc., etc. Et les salariés lui disent, non, pas question, c'est ici que ça se passe, dans l'Assemblée Générale, et on ne quittera pas cet endroit, il faut négocier ici. Bon. En plein week-end, quelques jours plus tard, donc le 14 août, pendant les fêtes de la Sainte-Marie, les CRS occupent l'usine et délogent les travailleurs. S'en suivent des affrontements, là encore une fois, dont les films rendent assez bien compte. Hein. et de nombreuses arrestations. À l'issue d'une manifestation en réaction à cette expulsion de l'entreprise, une manifestation là encore une fois très massive en ville, d'autant plus massive qu'on est en plein mois d'août, hein, pendant les vacances, Charles Piaget, donc, qui est le leader incontesté du conflit et le dirigeant, le responsable de la section CFDT, déclare, il y a encore une fois une photo, on le voit juché sur le toit d'une voiture, il dit « Le pouvoir ne sait pas que l'usine... » Pardon. « Le pouvoir ne sait pas que l'usine est là où sont les travailleurs. L'usine, ce n'est pas des murs, c'est des hommes. » Et très rapidement, dans un cadre beaucoup plus compliqué, la popularisation va se prolonger, hein, organisée par des commissions de travailleurs, tandis qu'à Arquesnans, donc dans une ville, un petit village même, une bourgade, on va dire, hein, là, à Arquesnans, c'est connu, parce que, je ne sais pas si c'est pas connu de vous, mais c'est connu parce qu'il y a une saline royale d'Arquesnans, hein, qui a été construite par Louis XIV, et donc c'est un très beau monument, il y a un musée, ça se visite encore aujourd'hui. Bon, bah, bref, à Arquesnans ont lieu des négociations, et dans ce bâtiment royal. Hein. Partout en France, des comités d'entreprise proposent aux travailleurs d'acheter des montres en soutien à la mobilisation des LIP. Un journal, donc LIP Unité, il y a un exemplaire sur la table, là, juste à côté, un journal très modeste, hein, un recto verso ronéoté, est diffusé largement auprès de nombreuses sections syndicales. Ce journal, il va être mis en place tout au long du conflit avec l'aide d'une organisation issue de mai 68 qui s'appelle les Cahiers de Mai, enfin qui s'appelait les Cahiers de Mai, ça a disparu. Hein. Et ce journal est réalisé par les travailleurs, par la commission de popularisation, sa diffusion va permettre de créer à travers tout le pays des mini-LIP, comme ça s'appelle, hein, des mini-LIP, donc des comités de soutien, souvent soutenus par la CFDT, pour assurer le soutien, diffuser le journal, organiser la projection du film que va réaliser Dominique Dubosc, un membre des Cahiers de Mai, hein, permettre d'animer les réunions qui sont tenues par des travailleurs, des travailleuses, des délégations de LIP, hein, qui vont parcourir la France pendant tout l'été et au-delà pour exposer leur lutte, discuter, débattre, échanger et bien sûr vendre des montres. Hein, vendre des montres. Au plus fort du mouvement, on recensera jusqu'à 75 comités de soutien, 75 mini-LIP à travers le pays. Hein. En effet, ces mini-LIP, le soutien apporté aux travailleurs de LIP, c'est aussi une manière de dynamiser l'action syndicale dans de nombreuses entreprises, dans des quartiers ouvriers. Hein. Et pour donner un exemple, LIP Unité a compté jusqu'à 5000 abonnés, hein, pour un tract recto verso. Bon, il y a quelques exemplaires qui sont un peu plus élaborés. Au fur et à mesure de la lutte, il sera non plus renéoté, mais imprimé. Hein. Et on estime que la diffusion, au-delà des abonnés, se monte à peu près 50 000 exemplaires au total. Hein. Donc, l'écho de la lutte va devenir européen, hein, et il y a peu d'exemples, hein, d'une mobilisation, d'une lutte qui ait connu un tel écho. Certains, d'ailleurs, évoquent fortement l'autogestion, hein, même si à LIP, personne ne se reconnaît vraiment dans ce portrait, et Charles Piaget aura des mots assez clairs en disant autogestion non, autodéfense oui. Hein, c'est repris dans un certain nombre de textes. Bon, il n'est pas le seul à dire ça. Alors, les négociations se déroulent le mois d'août avance, hein, le mois de septembre aussi, et septembre 73, Et ça piétine, hein, ça piétine. Un jour, Giraud vient et dit pas. Parce qu'il reprend en fait l'histoire du découpage de l'usine en plusieurs morceaux. Sur les licenciements, il varie un peu. Hein, un jour, il vient, il y en a 5 de moins. La semaine suivante, il y en a 10 de moins. Mais bon, la logique des licenciements n'est pas du tout. Comment dirais-je? Il ne revient pas sur la logique des licenciements. Ni les licenciements, ni les démantèlements. Bon. Alors, pour renforcer le rapport de force des LIP, l'intersyndicale décide, après un meeting qui a été un plein succès en plein été, au Palais des Sports, hein, où les secrétaires généraux, donc le 16 août, hein, les secrétaires généraux de la CFDT de l'époque, Edmond Maire, et de la CGT, Georges Segui sont rassemblés devant un palais des sports bondé, hein, et ils décident donc d'appeler une manifestation nationale en soutien au LIP. C'est les sections de l'entreprise, hein, qui décident de ça, et les dirigeants syndicaux sont un peu surpris, même beaucoup surpris, mais bon, l'appel est lancé, ils ne peuvent pas reculer. Hein. Donc, le 29 septembre a lieu à Besançon une immense, la plus grande manifestation qui ait jamais eu lieu dans cette ville. C'est estimé à 100 000 manifestants. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent de la population de la ville. Et la mairie, socialiste à l'époque, enfin elle l'est toujours d'ailleurs, enfin aujourd'hui elle est écolo, mais... La mairie socialiste avait appelé les commerçants à fermer leurs magasins pour éviter les débordements, le succès sera néanmoins absolument total. À l'automne, au mois d'octobre, le plan Giraud est proposé à la discussion d'une AG des LIP, et la CFDT LIP s'est vu, la section CFDT LIP s'est vue imposer par ses instances de la Fédération Générale de la Métallurgie, s'est vue imposer un compromis sous la forme d'une acceptation des licenciements, mais avec reclassement pour le personnel concerné. Donc, OK sur un certain nombre de licenciements, mais pour ces licenciés, une politique de reclassement. Ce compromis est soumis à Giraud, donc le négociateur, et il refuse. Pas de reclassement. Alors, la discussion...
Excusez-moi, reclassement, ça veut dire quoi ?
Reclassement, ça veut dire la possibilité d'obtenir un emploi ailleurs, okay. Hein, d'être reclassé dans d'autres entreprises. Alors, la définition de ce qu'est le reclassement est très large. Hein, il suffit de trouver un emploi. Voilà. Bon. En tous les cas, c'est la promesse qui soit reclassé ailleurs, qui ne passe pas par la case chômage. Hein. Alors, la discussion en AG va évoluer. Donc ça, cette proposition, elle a lieu la veille, hein, la veille du 12 octobre. Et Giraud la refuse, et la discussion dans l'AG va évoluer dans un sens, finalement, que personne n'avait vraiment prévu. La CGT s'aligne sur le plan Giraud, hein, et accepte, comme elle le dit, un nombre raisonnable c'est le terme même de la CGT, hein, un nombre raisonnable de licenciements. Les membres du comité d'action, eux, font prévaloir le principe du refus de tout licenciement. Et la CFDT, la section CFDT, va revenir sur son positionnement de départ et refuser le plan Giraud, avec cette idée de maintenir le mot d'ordre qui avait été celui de tous les salariés, aucun licenciement, hein, ni démantèlement, ni licenciement. Et la CGT réclame un vote à bulletin secret, c'est donc un vote à bulletin secret, et c'est la stupéfaction, parce que, par un vote largement majoritaire, l'ÉLIP refuse le plan Giraud. Hein, 626 voix contre 174 contre, hein, 626 voix, enfin plus exactement, 626 voix contre le plan Giraud pour 174 pour accepter le plan Giraud. La CGT rompt l'intersyndicale et cette rupture annonce son déclin inéluctable dans le prolongement du conflit. Le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Pierre Messmer, un UDR, hein, les Républicains aujourd'hui, hein, fait une déclaration le soir à la télé et il répète au moins deux fois, si ce n'est trois fois d'affilée, l'IP c'est fini, l'IP c'est fini, l'IP c'est fini. Bon, on va voir qu'il va se tromper et se mettre le doigt dans l'œil profondément. Alors, certes, à l'automne, après ce vote, encore une fois, qui stupéfie tout le monde, hein, parce que, évidemment, l'idée, c'est que, l'idée largement partagée, c'est que quand même, il vaut mieux 120, alors je ne sais plus, on était on avait, dans le cours des discussions, on est arrivé à un peu moins de 200 licenciements, hein, un peu moins de 200 licenciements, il vaut mieux accepter, bon c'est ce que dit la CGT, hein, ce que disait la CGT, il vaut mieux 200 licenciements, repartir sur un bon pied, plutôt que l'aventure de zéro licenciement. Mais bon, c'est la décision. Hein. Alors, à l'automne, la popularisation va se poursuivre à un rythme ralenti, hein, puisque les salariés, rappelons-le, sont extérieur à l'entreprise, hein, et des interrogations émergent sur, dans le débat public, hein, sur ce qui est appelé le jusqu'au boutisme des LIP, y compris dans le mouvement syndical qui ne comprend pas ce refus absolu du principe des licenciements. À l'aide des réseaux de la CFDT et du PSU, un parti qui n'existe plus aujourd'hui, Parti Socialiste Unifié, dont le dirigeant à l'époque était Michel Rocard, à l'aide donc des réseaux PSU et CFDT, des contacts vont être noués avec ce qu'on peut appeler des fractions modernistes du patronat, qu'on appelait à l'époque le groupe de Marseille, hein, puisqu'ils étaient localisés essentiellement à Marseille, et ces patrons modernistes, on peut dire, ils ont intégré le sens de mai 68 et ils pensent qu'il est nécessaire de composer avec le mouvement syndical, le mouvement populaire. Hein. Et donc, des tractations vont se dérouler qui permettent d'élaborer un nouveau plan de redémarrage de l'entreprise qui va être acté par ce qu'on appelle les accords de Dole. Dole, c'est, vous connaissez peut-être, c'est une ville entre Besançon et Dijon. Hein. C'est une petite ville, hein, dans le Jura, et suite aux accords de Dole, un nouveau PDG qui s'appelait, parce qu'il est mort cette année, là, enfin, oui, cette année, qui s'appelait Claude Neugevander, va être sollicité pour prendre en charge le redémarrage de l'IP. Et Claude Neugevander, c'est un personnage assez particulier, puisque c'était un haut cadre de la société Publicis, hein, donc un commercial, mais il était par ailleurs adhérent du PSU. Hein, et il s'était fait connaître quelques années plus tôt, en 1965, à Sarcelles, une grande ville nouvelle de la région parisienne, qui était d'ailleurs une mairie communiste, hein, et il avait réussi à établir des conseils de résidents, hein, à Sarcelles. Bon. Alors, qu'est-ce que disent ces accords de Dole? Les accords de Dole prévoient le réembauchage de la totalité des LIP, la totalité, donc pas de licenciement, hein, qui sont demeurés dans l'entreprise, mais un réembauchage progressif, hein, un réembauchage progressif en fonction de la montée en puissance des commandes. Dans l'attente de leur embauche, les travailleurs de LIP sont alors envoyés en formation, dans des formations de qualité assez variable. Plus on est situé haut dans l'échelle salariale, plus on a des stages de bonne qualité, moins on est situé bas dans l'échelle salariale, plus on a droit à des salaires de faible qualité. Hein. Mais bon nombre, alors les rembauches ont lieu début 74, hein. Le 11 mars 1974, les premiers LIP retournent au travail avec le maintien des avantages acquis, hein, dans une nouvelle société. Donc il n'y a pas là non plus de démantèlement. Nouvelle société, bon, on continue de l'appeler LIP, mais en fait son vrai nom c'est la Compagnie Européenne d'Horlogerie. Mais bon, c'est dans les locaux de LIP, ils fabriquent des LIP, hein, des montres LIP. Et ce redémarrage va être très compliqué puisque le patronat local et les pouvoirs publics, d'ailleurs, ne cherchent guère à favoriser le succès de cette nouvelle entreprise. Hein, et il faudra plusieurs interventions et pressions pour que Claude Neugevander respecte les accords et aboutisse à ce que les derniers LIP soient réembauchés, pratiquement tous en décembre 1974, donc une petite année, hein, puisque les accords sont signés, la reprise des embauches, c'est en mars, le 11 mars, et en fait, les derniers, les ultimes, seront embauchés en mars, le 15 mars 1975. Hein. Ces ultimes embauches confirment qu'en effet, aucun licenciement ne s'était déroulé pour la population ouvrière demeurée engagée dans la lutte. Hein. Bien entendu, comme dans toute lutte, hein, comme dans toute mobilisation de la sorte, les effectifs initiaux étaient, je l'ai dit, un peu plus de 1200 salariés hein, au moment du démarrage du conflit. Ceux qui vont être réembauchés dans la société ILIP après les accords de Dole, c'est un peu plus de 800. Hein. Donc il y en a 400 environ qui ont disparu à droite, à gauche, bon, ils étaient tentés leur chance ailleurs, déménagés, certains étant bénéficiants de la retraite, d'autres ayant retrouvé du travail, bon, etc. D'autres, d'ailleurs, un certain nombre, étaient complètement hostiles au conflit. Hein, il n'y avait pas à croire qu'il y avait unanimité complète des salariés. Bon. Alors, sous l'égide de son nouveau patron, l'entreprise LIP, donc la CEH, hein, va éprouver très rapidement de nouvelles difficultés, aussi bien techniques, parce que entre-temps, un nouveau défi technique se pose à l'industrie horlogère, c'est le développement de la montre à quartz, hein, donc une montre totalement électrique, hein, alors que jusqu'aux années 70, hein, c'était la prédominance de la montre mécanique. Donc des défis techniques, organisationnels et surtout financiers. Hein. En effet, début 75, enfin fin 74, début 75, un petit déficit, hein, un déficit assez modeste, va apparaître. 76, un déficit va apparaître et ce déficit ne sera pas couvert par les banques et ça contraindra Claude Neugevander, donc le patron, à démissionner. Le 6 février 76, il démissionne et finalement, le 13 avril 76, un nouveau dépôt de bilan a lieu, nouveau dépôt de bilan a lieu pour la CEH. Excusez-moi, je vais boire un coup. J'ai presque fini. Hein. Alors, va s'enclencher à ce moment-là un second conflit LIP, hein, qui va commencer quelques semaines plus tard par une nouvelle occupation de l'entreprise, qui sera votée en Assemblée Générale le 5 mai 1976. Et cette seconde phase du conflit va se poursuivre au-delà de l'élection de Mitterrand en 81. Et bon, on pourra revenir éventuellement dans la discussion, mais c'est quelque chose d'assez profondément différent, tellement le contexte sociopolitique a été bouleversé entre 73 et 81. Hein. Alors, ce qu'il faut retenir, en tous les cas, ça sera le mot de la fin, ce qu'il faut retenir de ce premier conflit, donc 73-74, hein, début 74, enfin, on peut même aller jusqu'à la fin 74 si on veut inclure la totalité des gens du réembauchage. Ce qu'il faut retenir de ce premier conflit, c'est que, contre tous ceux qui ne cessent de nous répéter qu'il est inutile de s'opposer à la logique du fonctionnement du système capitaliste, hein, que les licenciements, les démantèlements font partie de la logique intrinsèque de l'économie, hein, et qu'on peut, au mieux, éventuellement, adoucir, hein, cette logique. Bon, au contraire, la lutte des LIP a montré de façon vivante, de façon démocratique, de façon offensive, de façon joyeuse même, qu'il est possible de gagner, même si, bien sûr, l'histoire n'est jamais écrite d'avance, hein, même si cette victoire ne fut que temporaire, mais qui était en mesure, hein, au moment du réembauchage, de prévoir le retournement de conjoncture et l'avenir. Hein. Par Madame Soleil, personne ne sait vraiment de quoi l'avenir sera fait. Bon. Et c'est donc une lutte qui s'est menée, une première riposte ouvrière qui s'est menée contre la logique de faire payer la crise aux travailleurs. Et on peut dire que les travailleurs de l'IP, en ayant fait la démonstration pratique, hein, ont ancré ce conflit, hein, montré l'incomparable puissance de ce conflit. Et c'est pas étonnant si un demi-siècle après, il y a encore un écho, hein, du conflit LIP dans les consciences collectives. Alors pour les plus jeunes générations, évidemment, j'espère aussi dans l'avenir pour les plus jeunes qui participent par exemple à des conférences bien écoutées et qui liront les livres qui sont disponibles ici. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été clair, ne pas trop vous avoir barbé. Et bien sûr, je reste à votre disposition pour discussion, échange, débat en la matière. Et je bois un coup. Du thé, froid. Allez, qui se lance ?
C'est juste que c'est enregistré et qu'après, on va essayer de publier sur disjoncter. Donc, si vous voulez pas, votre intervention au sein de vous, vous pouvez.
Alors, moi, je peux lancer une première question. C'est, comme tu l'as bien montré, ça a eu un énorme écho à l'époque. Ça a bouleversé plein de gens. Il y a des gens qui l'ont vu comme un peu un aboutissement de la logique de mai 68. Sont un peu le point le plus loin où ça avait été poussé. Et pourtant, ça donne l'impression que cette lutte, les nouveautés qu'elle a amenées, le fait d'occuper l'usine, de faire des payes ouvrières, de relancer la chaîne, de faire les payes ouvrières, qu'en fait, ça a été plus un peu un chant du cygne, que ça n'a pas eu de suite, qu'il n'y a pas eu derrière d'un grand mouvement de reprise de ces pratiques-là, et que ça a buté sur un mur, quoi.
Alors, là encore une fois, il faut reprendre l'histoire. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres éventuellement où je réponds tout de suite. Bon, enfin, ça laissera le temps de réfléchir. Il faut reprendre l'histoire parce que c'est, on pourrait dire d'un point de vue cynique, comme tu l'as souligné, c'est le chant du cygne. Hein. A posteriori, bon, d'abord, dans l'action, c'était difficile de le deviner. Bon. Et puis, il faut bien reconnaître que... en particulier dans les tentatives qui ont été faites par les syndicalistes à l'IP, que bien des bâtons leur ont été mis dans les roues, aussi bien par les partis de gauche, on va dire, voilà, pour dire les choses clairement, que par les confédérations syndicales. Ça se voit très clairement dans la deuxième phase du conflit, où les LIP, alors dans la première phase, ça a été trop rapide pour que ça ait eu des effets véritables d'entraînement, mais en novembre ou décembre, je ne sais plus la date exacte, 73, dans le cadre du premier conflit, les LIP ont appelé, alors ils n'appelaient pas ça convergence des luttes, parce que ça c'est un terme qui n'était pas encore là, mais ils ont appelé dans les locaux qu'ils occupaient, qui n'étaient plus les locaux, ils occupaient deux locaux, ils avaient un gymnase, hein, à Besançon, qui était mis à disposition. Enfin, c'est un peu compliqué, parce que dans un premier temps, ils ont eu un gymnase qu'ils occupaient, mis à disposition par la mairie, et puis la mairie a voulu récupérer le gymnase, et ils occupaient une MJC. Hein, voilà, donc un endroit pas très pratique. Et pour tenir les assemblées générales, ils disposaient d'un cinéma, hein, d'un grand cinéma dans lequel ils faisaient les assemblées générales. Donc, Je reviens à mon propos. Donc, dans des conditions pas très faciles, ils ont lancé un forum pour l'emploi, hein, avec des entreprises qui traversaient des difficultés comme eux, dans l'optique de rassembler et de fédérer les luttes en France. Il faut savoir que dans la même période, hein, 73, 74, etc., on dénombre à peu près une vingtaine d'entreprises qui ont, elles aussi, tenté des modèles de reprise de la production. Alors, plus ou moins élaborés, hein, parce qu'encore une fois, relancer la production, je vais prendre un exemple caricatural, hein, mais quand vous fabriquez des centrales nucléaires, vous allez vendre la production à qui? Et puis, vous voyez, pour fabriquer des centrales nucléaires, il faut des milliers de tonnes d'acier, de béton, je ne sais pas quoi. Bon, c'est autre chose que de vendre des montres, hein. Bon, voilà. Mais il y a plusieurs exemples d'entreprises. Une des plus célèbres, c'est PIL. Alors, c'est des ouvrières de la vallée du Rhône qui faisaient des vêtements. Hein. Elles ont lancé une collection de chemises qui s'appelait PIL, en hommage évidemment aux LIP. Hein. Et donc elles ont là aussi vendu... bon, mais ça ne peut pas être une solution définitive. En tous les cas, il y a eu une volonté de la part des LIP de fédérer, hein, autour d'eux. Ce que les organisations syndicales ont regardé avec la plus grande suspicion, considérant que c'était le rôle des structures syndicales de s'occuper de ça et pas à une usine en grève. Ça a été encore pire au moment du deuxième conflit, parce que la même idée est revenue de fédérer des usines. Alors, pas nécessairement qu'il y avait des projets productifs, mais des usines qui étaient menacées de licenciement, et de dire, on est face à des problèmes similaires, eh bien, mettons-nous ensemble, hein. Et il y a eu plusieurs forums pour l'emploi, des usines en lutte, une coordination des usines en lutte, pardon, excuse-moi, qui ont eu lieu à Besançon, mais qui ont été littéralement torpillées par les confédérations, hein, qui ont interdit à leur section syndicale d'y participer. Et bon, ça a vite tourné en eau de boudin, dans la mesure où les structures syndicales ont empêché ce genre d'activité, ouais, j'allais dire autonome, c'était un peu exagéré, autonome, mais en tous les cas, auto-organisée. Alors, quant au parti de gauche, dans la deuxième phase de la lutte, en 1977, le dos au mur, hein, le dos au mur, les LIP, pour maintenir la mobilisation, décide de créer des coopératives. Hein. Alors, il y a eu un énorme débat compliqué, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans toutes les discussions, mais il y avait en gros deux positions, hein, pour aller vite. Ceux qui disaient, bah, finalement, pas besoin de patron, allons-y, tranquille, on lance notre outil de production, Avanti, et tout va bien aller. Et d'autres qui disaient, on est le dos au mur, on n'a pas le rapport de force. Rappelons que la gauche perd les élections municipales de 1977, la gauche désunie perd les législatives de 1978. Donc, c'est ce contexte-là. Je rajoute sur le plan économique que Giscard a été, enfin politique plus exactement, Giscard est réélu en 1974. Avec Giscard, c'est les néolibéraux qui sont au pouvoir. C'est clair, on passe la période du réformisme pépère du gaullisme, on va dire, hein, pour aller vite, aux néolibéraux. Bon. Donc le climat politique et économique se dégrade. La gauche avait promis, Mitterrand était venu à l'IP, avait dit, créez vos coopératives et on vous aidera. Et d'ailleurs, en 81, ça va être nous. Hein. 81 est arrivé, la gauche n'a rien fait. Si bien que toutes les coopératives, sauf une, ont fait faillite dans les années 82, 83. La plus importante a déposé le bilan en 85, avec des histoires compliquées, parce que certaines ont pu reprendre avec des auto-licenciements, ils sont passés par différents statuts, etc. Mais le champ du cygne, oui, d'un certain point de vue, mais qui a été précipité par les décisions politiques et syndicales de ceux qui auraient dû, hein, être les soutiens les plus fermes de la lutte des LIP. Voilà. Donc l'histoire n'est pas, c'est pas une histoire qui était écrite, hein. C'est qu'il y a eu des tensions extrêmement fortes. Il faut bien reconnaître que au moment où l'IP dépose son bilan, c'est une des premières grandes entreprises. Au moment où, en 76, il y a des dizaines d'entreprises, la désindustrialisation, la fermeture de toutes les grandes entreprises est engagée. Hein, est engagée. Bon. La sidérurgie, la métallurgie, la construction navale, l'automobile, c'est tous les grands secteurs qui vont participer à la désindustrialisation sont engagés, quoi. Donc, évidemment, c'était un cadre. Et je parle pour la France. Si on regarde d'encore un peu plus loin, évidemment, le retournement de conjoncture est encore plus marqué avec l'élection de Reagan aux États-Unis, l'élection de Thatcher, hein, qui a quand même cassé systématiquement le mouvement syndical. Bon, voilà, c'était... on était rentré, mais cette entrée dans la régression, dont on n'est pas sorti, hein, on n'est pas sorti de cette période-là, 40 ans après, n'était pas une fatalité. N'était pas une fatalité, c'est ça qu'il faut vraiment marteler. Voilà, chant du cygne, oui. Je m'excuse, hein, je suis un peu long dans mon développement, mais il faut bien comprendre tous les éléments, mais beaucoup d'éléments. La réponse c'est pas oui non, quoi. Voilà. Allez, bon, un coup. Oui, vas-y.
Moi j'avais deux questions qui n'ont pas grand chose à voir l'une avec l'autre, mais la première c'était dans ce moment-là, dans le récit quand même, on sent qu'il y a une espèce de tentative d'autonomie d'ouvrière, quoi, qui se met en place, qui est contrée à plein de moments par les syndicats. Par les partis, par le pouvoir, et il se passe la même chose en Italie dans les mêmes périodes, et je me demande s'il y a des liens qui sont établis, tout ça, ouais, si tu as demandé en deux mots, et comment ça s'est passé, est-ce que, voilà. Et la deuxième, c'est dans le récit que tu as fait, à aucun moment, à part l'intervention des CRS, tu as fait état de répression, par, comment les militants, alors soit le pouvoir il n'avait vraiment pas peur de ça, il n'a pas réprimé, soit... il avait très peur à qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet-là?
Alors, sur l'Italie, il y a eu des liens avec les organisations syndicales, avec la FIOM, la métallurgie italienne, qui était au fait de sa puissance à cette époque-là, et avec les organisations extra-parlementaires. Hein, au moment on le voit ça aussi très bien au moment de la manif du 29 septembre, il y a des délégations de travailleurs italiens qui sont rendus à Besançon et qui sont restés, hein, dans les jours qui ont suivi. Donc il y a eu des échanges. La lutte des LIP a été fortement popularisée, sans doute en Italie, un des pays dans lequel la popularisation à l'extérieur a été la plus importante. Bon, il y a eu la Belgique, mais la Belgique c'est plus particulier parce que il parle français, enfin au moins dans la partie wallonne, il parle français, donc c'est beaucoup plus simple. Hein. D'ailleurs, il y a eu des délégations complètes de Belges qui sont venues, mais l'Italie, c'est une autre langue, hein, une autre langue, une autre culture. Donc, dans les pays non francophones, c'est en Italie qu'il y a eu le plus de popularisation de cette lutte des LIP, et on le retrouve à travers la presse des groupes extra-parlementaires, et il y a eu des comités LIP, hein, à Milan, à la Fiat, hein, il y a eu des comités LIP, et qui a inspiré aussi un certain nombre de tentatives, hein, de mouvements, de grèves, bon, pas toujours couronnées de succès, mais en tous les cas, ça a eu un très 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 important écho, hein, en tous les cas dans le nord de l'Italie, pour ce que je connais, et qu'on retrouve dans les archives, hein, parce qu'il y a des tracts et des journaux. Hein. La FIOM, donc la Fédération des ouvriers métallurgistes, avait même proposé, ça n'a pas débouché, hein, mais avait même proposé une journée de grève en soutien à l'IP. Hein. Bon, aujourd'hui, on voit la CES, la Confédération européenne des syndicats, ils sont même pas foutus d'appeler à des journées coordonnées entre les différents pays. En gros, il faut aller manifester devant le Parlement européen à Bruxelles, et c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Bon. Là, c'était quand même l'idée, encore une fois, ça n'a pas abouti, hein, mais c'était quand même l'idée d'une journée de grève internationale. Hein, bon. Alors, la répression, c'est un aspect extrêmement sensible, parce que après l'évacuation de l'usine, le 12 août, il y a eu plusieurs jours d'émeutes, hein, à Besançon, avec des arrestations extrêmement importantes et des jugements, bon, comme d'habitude, lapidaires, hein, pour ceux qui ont été arrêtés. Et les organisations syndicales ont calmé le jeu, hein, très clairement calmé le jeu, en disant attention, c'est un dérivatif pour nous. Notre lutte, c'est pas de constituer des comités de soutien. Il y a eu un comité de soutien des internés, enfin des internés, des gens arrêtés, hein, qui a eu un journal, qui a sorti des tracts, etc., qui faisait des collectes. Hein, et chaque fois, alors je l'ai pas dit, mais il y a eu 5 pays ouvrières hein, au total entre la première du mois d'août et la dernière de fin décembre. Donc il y a eu 5 pays ouvrières. À chaque fois qu'il y avait des pays ouvrières, il y avait une urne où chacun pouvait déposer de l'argent pour les gens arrêtés ou pour d'autres entreprises en grève. Hein. Donc ça, encore une fois, on le voit bien dans les films qui ont été réalisés. Et donc il y a eu une commission répression qui s'est mise en place, hein, spécifique à l'IP, mais qui donc s'est occupée de soutenir financièrement et judiciairement les gens qui avaient été arrêtés, mais qui ont aussi évité qu'il y ait des débordements importants. Après, la répression, elle n'a plus pris un visage aussi frontal, mais il y a eu des filmages, arrestations, perquisitions à plusieurs reprises chez des militants de l'IP, hein. Des militants, d'ailleurs pas nécessairement des gens très connus, hein, mais à chaque fois, pour essayer de retrouver les montres, hein, l'objectif c'était de retrouver les montres, ils ont bloqué les comptes de la Solidarité, qui étaient déposés dans une banque, c'était le Crédit Mutuel, donc ils ont bloqué les comptes, donc il a fallu revenir à des méthodes plus artisanales, de billets, quoi, enfin, d'argent liquide, hein, ce qui n'est pas toujours simple, hein, quand vous partez à Bordeaux pour vendre, je sais pas, 300 montres, vous revenez avec 15 000 francs, je dis n'importe quoi, parce que je ne connais pas les prix, ça fait une valise. Hein. Donc, il vaut mieux revenir avec un chèque tranquille plutôt qu'avec une valise, que le moindre douanier vous chope, enfin, douanier ou flic vous chope, et puis ils ont saisi une partie de l'argent, hein, une partie de l'argent a pu être saisi par la police, mais il n'y a plus eu d'affrontement direct. Alors, le dernier, ça je le raconte pour le fun, si on peut dire, La Ligue communiste venait d'être dissoute, hein, en juin 73, juin 73, ses dirigeants étaient emprisonnés pendant les... la Ligue communiste, bah, c'est Krivine, voilà, je ne sais pas si ça...
l'ancêtre du NPA, quoi.
L'ancêtre du NPA, voilà, si ça vous... Et donc, ils étaient emprisonnés, etc. Et ils ont représenté une grosse délégation à la manif de Besançon. Et Krivine avait déclaré qu'il fallait essayer de profiter de cette manifestation, il y avait 100 000 personnes, pour essayer de reprendre l'usine. Donc, en gros, on oriente la manif et puis on va submerger les quelques centaines de flics, les quelques centaines de CRS. Mais bon, cet avis avisé n'a pas reçu l'aval des organisations syndicales. Donc voilà. Mais bon, des fois, après s'être fait dissoudre, il risquait pas d'être redissous, ça c'est sûr. Mais bon, c'est une autre période quand même. Hein.
Voilà. Sur les premières arrestations, les gens ils ont été en prison ou est-ce que...
Il y a eu quelques emprisonnements, mais il y a eu surtout des amendes. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une affiche, hein, qui explique bien, il y avait très peu de LIP dans ceux qui ont été arrêtés. C'est des ouvriers, hein, beaucoup d'ouvriers, mais d'autres entreprises de Besançon et de la région. C'est pour ça que aussi il y avait la solidarité proprement financière.
Et sur les paies, là, les 5 paies, ils n'ont pas réussi à bloquer Non.
Ça c'est
5 fois 1000 ouvriers, je sais pas combien.
Alors il y en avait 800, hein, 800 à la fin, 800. Mais non, ils n'ont jamais. Et encore une fois, liquide, hein. Voilà, dans des enveloppes, ils n'ont jamais réussi. Et d'ailleurs, un jour, ils sont venus à la MJC de Palante. Hein. Alors, je peux plus, là, comme ça, je n'ai plus la date en tête, peu importe. Ils viennent et ils étaient persuadés que c'était le jour de la paye. Et donc, boum, eh ben, manque de chance, la paye, elle avait été avancée, puisqu'ils se doutaient que le bruit courait, que les gens allaient payer. Ils l'avaient fait la veille. Donc, ils ont fait chou blanc. Voilà. Piton.
C'est Monique Piton qui raconte pas mal de choses dans son livre par rapport à ça, et elle raconte des anecdotes. Bon, alors il y en a des très glauques, par exemple le fait qu'il y a eu beaucoup de violences policières après l'expulsion de l'usine.
Ouais.
Il y a notamment un couple, enfin il y a eu. Ouais, je sais pas, une personne qui s'est fait bien tabasser par les flics, qui a été ensuite mise en prison. Sa femme était enceinte, elle a eu tellement de stress qu'elle a perdu le bébé. Enfin, il y a vraiment des histoires assez choquantes, quoi. Elle raconte aussi comment les flics ont été perquisitionnés jusque dans le couvent des moines de Saint-Claude, parce qu'ils pensaient que, en fait, les montres, elles devaient être planquées au froid. Et du coup, tous les endroits réfrigérés de la région, ils ont été les perquisitionnés jusque là-bas, quoi. Et elle raconte aussi pas mal sa garde à vue à Paris, parce qu'elle s'est fait arrêter pendant qu'elle vendait les montres un peu à la sauvette dans le métro, quoi, des montres LIP, et elle s'est fait arrêter. Et ouais, il y a un récit de sa garde à vue qui est assez intéressant.
Je sais pas si vous connaissez le film de Claude Rouault qui s'appelle LIP, l'imagination au pouvoir. Il existe en DVD, hein, c'est un film qui date de 2007, donc il y a quelques années là maintenant. Et je vous invite vraiment à le regarder. Alors, c'est un film qui est fait sur la base de... Il y a un petit peu d'archives, hein, il y a très peu d'archives. C'est essentiellement des témoignages des principaux acteurs du conflit LIP. Donc, en 2007, donc bien des années après. Et il y a... Bon, je ne vais pas vous dire les noms, mais enfin bon, il y a beaucoup de gens. Et il y a Monique Piton, notamment, qui parle dans ce film-là. Voilà. Et l'élite, l'imagination au pouvoir, regardez ça. Hein, si vous voulez faire un jour une écoute collective, c'est vraiment... C'est en fait ce film qui a fait reconnaître... Ouais, 73, hein, le deuxième conflit a eu beaucoup moins de popularisation. Hein. Parce que, encore une fois, la conjoncture n'était pas la même, et puis parce que ça a été un échec. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Ça n'a pas abouti par une victoire. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins facile à célébrer. Et donc oui, il a fait aussi un film sur le Larzac, sur le même principe, avec des témoignages. Hein, donc, il y a toute une série de gens. Et puis, c'est... parsemé de quelques éléments d'archives, mais il y a très très peu d'archives, c'est surtout des gens, et c'est bien parce que entre temps il y en a plusieurs d'entre eux qui sont morts, dont certains très récemment. Voilà, donc si vous avez l'occasion, ça file une pêche, ce film, on se dit, mais sur l'histoire là, et, bon, c'est raconté un soir, c'est Michel Janingro, un militant CFDT, il est commandité pour aller rechercher des montres. Je vous raconte ça. C'est l'anecdote qui va faire rire tout le monde. Et ils partent avec des conditions de sécurité, une voiture devant, une voiture derrière et tout, pour éviter les flics et tout. Et puis d'un seul coup, beaucoup de brouillard, ils perdent les voitures. Ils se retrouvent au milieu de la pampa, dans la campagne haussonnoise. Et puis le conducteur dit « Ah bah attends, là-bas je connais le curé, attends, on va passer chez lui, on va aller voir et tout. » Et donc ils vont chez lui, et puis il y a de la lumière à la cure, et puis il frappe, puis personne ne répond. Et il frappe, et le curé finit par... se pencher par la fenêtre, puis il dit « Qui c'est ?» Il dit « Ce machin !»« Ah, c'est toi, écoute, oh, d'accord. » Il ouvre la porte, puis il dit « Tu m'excuses, hein, j'étais en train de distiller. » Donc, il pensait que c'était éventuellement les flics qui venaient pour lui mettre une amende, quoi. Voilà, des anecdotes comme ça, il y en a plein, des choses assez... Et ça, il le raconte dans le film, c'est vraiment excellent, quoi. Voilà, pour vous inciter à regarder du bon cinéma documentaire et engagé. Voilà. Oui, vas-y.
Particuliers ont eu les femmes dans cette lutte, et qu'est-ce que je pense que c'est quand même ça a changé quand même beaucoup de choses, parce que même si on peut dire que il y a le champ du cygne, je pense que comme toutes les luttes, c'est aussi le chemin qui est important et intéressant, parce que les libérations que ça amène, les gens retournent pas en arrière, et je crois qu'à ce niveau-là, c'est quand même ça a été aussi très important, quoi, comme toutes les luttes.
Mmh.
Et que comme le personnel féminin était essentiellement aussi le personnel qui fabriquait, enfin, et notamment les OS, parce que je pense qu'il y avait très peu de femmes cadres. Et voilà, et donc tu peux nous parler du rôle des femmes, et aussi de comment qu'est-ce qui s'est passé au niveau des cadres par rapport justement aux OS? Quelle a été leur implication? Est-ce qu'il y avait les différences de classe sociale? Comment ça s'est passé à ce niveau-là?
Alors, j'ai déjà répondu à la deuxième, parce que ça va être beaucoup plus rapide. En fait, la plupart des cadres sont restés chez eux, hein, ils n'ont pas participé au mouvement. Certains autres ont participé de loin. Très rare, finalement, on peut dire que c'est vraiment l'exception, ceux qui ont participé au mouvement. Hein, on les retrouvera dans la deuxième lutte, parce qu'il y aura une coopérative qui sera montée par une partie des cadres, mais on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de participation réelle des cadres. Alors, les femmes, ça, c'est une autre affaire. Les femmes, en fait, comme je l'ai dit, elles comptaient la moitié des effectifs. Hein. Extrêmement peu de femmes dans des positions d'encadrement. Hein. Aucune dans de chef d'atelier, chef d'équipe, etc. Aucune femme. Ça, c'est la prérogative des hommes, hein, très clairement. Et en fait, elles ont joué un rôle absolument décisif parce que bon nombre d'entre elles ont participé aux délégations à travers la France. Hein, et ça a été un mouvement de libération, on peut dire, personnel et collectif pour celles qui ont participé, parce que c'était des ouvrières, tout ce qui est plus standard, hein, et elles se retrouvent d'un seul coup partir pendant plusieurs jours, que leur mari gère les gosses si elles avaient des gosses, hein. D'ailleurs, ça a posé tout un tas de difficultés. Elles partaient plusieurs jours pour aller vendre des montres, et puis quand elles arrivaient, on leur disait, mais il faut que vous nous racontiez ce qui se passe. J'ai jamais parlé de ma vie, moi, mais vas-y toi, non, vas-y toi, etc. Et elle se retrouvait avec un micro à raconter la manière dont elle vivait la lutte, quoi. Et donc, évidemment, ça a permis ça, hein, une forme de comment je dirais, d'activation, hein, d'une conscience du rôle qu'elle pouvait jouer. Et ça n'a cependant pas débouché sur... Il y a plusieurs travaux qui ont été conduits en la matière. Ça n'a pas débouché sur, on peut dire, l'émergence d'une conscience féministe de masse. Hein. Quelques femmes qui étaient déjà souvent actives avant le conflit, dans la section syndicale CFDT, pour dire les choses clairement. Monique Piton est un bon exemple. Il y en a d'autres, on les voit par exemple parler dans le film, hein. La CGT, par exemple, il y avait deux animateurs importants. Il y avait un homme et puis une femme qui s'appelait Noëlle Dartevelle. Hein, elle est morte désormais. On la voit dans plusieurs films. Elle témoigne dans le film de Christian Rouault. Elle va avoir un rôle un peu sur le devant de la scène, hein, pendant tout le conflit, mais on ne peut pas dire qu'elle émerge du conflit. Hein, on ne peut pas dire qu'elle émerge du conflit. C'est plutôt du côté des femmes qui sont engagées dans le comité d'action qu'un certain nombre d'entre elles, pour la plupart, avaient déjà aussi une carte syndicale, hein, mais n'avaient pas de rôle particulier dans le syndicat, qui vont jouer un rôle important. Cas de Monique Piton, cas de Janine Pierre-Émile, bon, nom qui n'est pas nécessairement connu. C'est le cas de Fatima de Mougeot, bon, c'est le deuxième nom qui est souvent une OS, hein, elle est rentrée comme OS dans l'entreprise. Au moment du conflit, elle avait un poste un peu, elle avait un peu gravi les échelons, mais guerre, hein, et elle va vraiment se révéler durant le conflit. Elle va être une des animatrices importantes à travers le comité d'action. C'est après la fin du premier conflit que va se créer, sous l'impulsion de deux militantes du PSU, un groupe femmes, hein, qui va recueillir la parole d'un certain nombre d'entre elles, une dizaine, quinzaine, plutôt une grosse dizaine, pas une quinzaine, j'exagère un peu, une grosse dizaine d'entre elles, et qui vont se retrouver à discuter un peu sous la forme, comme le faisait le mouvement féministe à cette époque-là, d'un groupe de conscientisation. Hein. Donc elles vont se retrouver pour discuter de la manière dont elles avaient vécu le conflit, dont elles avaient vécu les relations à l'intérieur de leur couple, ce que ça avait changé, les difficultés, les blocages, etc., etc. Et tout ça est enregistré, hein, et va finalement donner lieu à un livre qui est publié, alors d'abord sous la forme d'une brochure par le PSU, hein, qui s'appelle L'Hypoféminin. Je ne sais pas si ce livre vous est connu. Et ensuite, donc les éditions du PSU, parce que la brochure a un certain écho, le livre va être publié sous la forme de livre. Le livre sous la forme de livre, ce n'est pas très bien dit. Enfin, le contenu, hein, la brochure va être ensuite éditée. Elle aura une édition anglaise, allemande, italienne. Hein, donc, on peut dire une diffusion très très large dans le mouvement féministe, et c'est un peu l'incarnation de ce qu'on a pu appeler le féminisme ouvrier, mais qui repose quand même sur un nombre assez réduit de femmes, et qui n'a pas... Alors, ça a eu des implications, par exemple, au moment du redémarrage de l'entreprise, puisque Fatima de Mougeot, par exemple, a revendiqué d'avoir une place dans les listes syndicales pour aux élections professionnelles. Hein. Et elle a été adoubée, hein, parce qu'il y a eu un pré-vote dans la section, elle a été adoubée très largement pour occuper cette fonction, alors qu'elle était simple syndiquée avant. Hein, simple syndiquée. Donc elle va se mettre un petit peu, enfin, elle va se mettre en avant, c'est pas le bon terme, mais elle va être un peu projetée sous les feux, et ça aura aussi des implications dans l'entreprise, donc sous Claude Neugevandet, puisque il y aura à travers les élus du comité d'entreprise des demandes spécifiques pour les femmes, par exemple des pauses pour celles qui sont enceintes, par exemple un accès facilité à la formation. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? En tous les cas, il y a eu des revendications plus spécifiques pour les femmes qui ont été permises par l'élection de délégués, de représentantes du personnel, sans qu'on puisse dire, hein, que l'hégémonie masculine a été véritablement remise en question. Hein. Et c'est pas étonnant si finalement, quand on regarde, et même dans le film de Rouault, hein, assez symptomatique, on y voit Noël d'Artevel, bon, celle dont je vous ai parlé là, qui était commencé à bosser dans les années 50, je pense, au début des années 60, donc une vieille militante de la CGT, Jeanine Pierre-Émile, voilà, c'est une de celles qui a un peu émergé du conflit, Fatima de Mougeot, Monique Piton. Et puis je crois que j'ai fait le tour des femmes qui interviennent. Il y en a une qu'on voit, bon, elle est beaucoup moins connue, c'était l'ancienne assistante sociale. Elle intervient, mais très brièvement dans le film. C'est les seuls noms un peu féminins. Donc, à la fois, à un niveau individuel, des avancées pour un certain nombre d'entre elles. Il n'y a pas de travaux, pour ce que je connais en tous les cas, mais je maîtrise assez bien la chose quand même, il n'y a pas eu de travaux qui étudient l'impact, on va dire, intrafamilial. Hein, il y a eu des divorces, il y a eu des reconfigurations dans le couple, mais sans qu'on ait des éléments qui soient vraiment très très probants. Hein. Par contre, là, il y a beaucoup de littérature, à mon avis, qui glose un peu sur Fatima de Mougeot, Monique Piton, bon, les deux héroïnes, là, elles ont fait l'objet il y a une thèse, la dernière thèse qui a été publiée sur l'IP, c'est justement sur la cause des femmes par une étudiante de Besançon, et elle fait pratiquement la moitié de sa thèse autour de ces deux figures-là. Ce qui, à mon avis... Alors, bien sûr qu'elles ont eu un rôle extrêmement important, hein. Bon, il ne s'agit pas de le contester, mais qui tord un peu le bâton dans le sens de toutes celles qui ont fait des avancées beaucoup moins spectaculaires parce qu'elles ont été vendre des montres, parce qu'elles ont accueilli chez elles. Moi, je me rappelle avoir discuté avec de manière informelle, hein, avec la femme d'un responsable syndical qui était complètement émerveillée parce que ils avaient accueilli un groupe de Suédois et de Suédoises, et alors dans leur appartement là, et alors les Suédoises se baladaient à poil de manière complètement naturelle. Ils étaient cathos, hein, évidemment, voilà. C'est possible en tant que femme, etc., sans que ça soit, comment dirais-je, répréhensibles, voilà, chercher le terme répréhensible, donc des choses, après, comment sur le, elle avait été interloquée, quoi. Comment sur le long terme ça peut avoir des effets, ça, il aurait fallu faire un travail plus particulier, plus spécifique, quoi. Mais c'est sûr qu'un conflit d'une telle durée, un an, hein, pour la première phase, ne peut que modifier, même si ce n'est pas centralement le rapport homme-femme, parce que ça, il faudrait plus qu'un conflit, même important, mais permettre une série de glissements dans la vie professionnelle, dans la vie privée, enfin, dans les différents domaines, quoi.
Il y a juste ouais. Une question que je voulais encore poser, c'est est-ce que quand il y a eu les payes qui étaient faites, à l'intérieur, est-ce qu'il y a eu un moment, une remise en cause de la hiérarchie des salaires? Il me semble qu'il y a quand même eu des réflexions là-dessus.
Alors, tout à fait, ta question est bienvenue. En effet, il y a eu, avant la première paye ouvrière, en particulier dans le comité d'action, au sein du comité d'action, un long débat sur la manière dont la paye devait être versée. Et plusieurs membres du comité d'action étaient favorables à une paye équivalente pour tous. Hein. Donc une paye moyenne, quoi, hein, pour tous. Bon. C'était par exemple la position de Jean Agnès, là, le prêtre dont j'ai parlé. Et il n'était pas tout seul, hein, il était partagé par de nombreux autres dans le cadre du comité d'action. Ça a été débattu en Assemblée Générale, hein, donc il y a eu une discussion, enfin pas une discussion, il y a eu plusieurs discussions en Assemblée Générale, et ça n'a pas été retenu. Et la CFDT, alors la CGT, il avait une position un peu spécifique, mais je la sais plus, donc je ne veux pas dire de bêtises, la CFDT s'est positionnée contre, en disant que c'était un motif de démobilisation des travailleurs si on ne respectait pas la hiérarchie des salaires. Ce qui fait que, alors c'était pas tellement la question des hommes et des femmes, hein, c'était pas tellement la question des hommes et des femmes, mais c'était surtout la hiérarchie des salaires, bon évidemment, qui était défavorable aux femmes par ailleurs, hein, mais ça n'a pas été posé sous l'angle des femmes par rapport aux hommes, quoi. C'est ça que je veux dire.
Et ça me surprend quand même que ce soit la CFDT qui s'y soit opposée, parce que c'était une époque où, à l'intérieur de la CFDT, il y avait des options pour faire des augmentations de salaire qui ne soient pas uniquement en pourcentage, mais avec une part fixe et une part
mobile.
Pour commencer à casser la hiérarchie.
Ça, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose parce que
c'était à la CFDT, parce que la CGT était que pour des augmentations en pourcentage.
Ils ont obtenu, après 68, un certain nombre de primes qui soient uniformes pour tout le monde. Hein, après 68, toutes les primes qu'ils ont obtenues, et là, la CFDT, mais ça, là, sur les salaires, hein, sur comment dirais-je, la hiérarchie des salaires, là, la CFDT a pas adopté ce point de vue-là, en considérant encore une fois que ça risquait d'être un motif de démobilisation pour ceux qui allaient en être victimes, quoi. De même qu'il y a eu une discussion, parce que tout le monde n'a pas eu la même implication, évidemment, dans le conflit. Il y en a qui étaient là pratiquement 24 heures sur 24, il y en a d'autres qui venaient aux AG, qui participaient un peu à des commissions, et puis qui rentraient chez eux. Pendant les vacances, il y en a qui sont partis en vacances. Hein, au mois de juillet-août, il y en a qui sont partis en vacances. Bon, ils n'étaient pas là pendant un certain temps. Est-ce que c'était légitime qu'ils perçoivent quand même leur paix habituelle, alors qu'ils avaient moins participé que d'autres? Donc c'est vrai que cette question, elle n'est pas simple, hein, elle peut avoir des implications lourdes sur la mobilisation, mais ce qu'on peut dire, c'est je ne sais plus quel journal, j'ai un trou là, il me semble que c'est François, avait caractérisé la grève des LIP comme une paix d'ouvriers riches. Parce qu'en fait, ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu. Hein, voilà, parce qu'ils n'ont pas payé de cotisations sur la retraite, etc. Bon, sur les allocations familiales, il y a eu plein de problèmes. Mais sur le salaire en lui-même, le salaire net, ils n'ont pas perdu. Hein, ça a été en quelque sorte compensé par l'appel à la solidarité où chacun mettait une partie de son salaire dans les urnes, enfin comment on appelle ça, pas des urnes, des boîtes, enfin où ils pouvaient mettre une partie de l'argent hein, pour aider les autres mobilisations. Voilà. Alors, dernière chose, encore, si quand même, il faut que je par rapport aux femmes, dans le cadre du deuxième conflit, une crèche a été créée. Hein. Une crèche a été créée dont l'animation... Monique Samplin, Monique Piton Samplin, c'est elle qui a porté cette idée-là. On lui a dit, bah, vas-y, occupe-toi-en. Ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, elle a mis sur pied cette crèche et bon, a fonctionné plus ou moins bien. Voilà, dans tous les cas, tant qu'elle s'en a occupé, ça a fonctionné. Après, c'était plus compliqué. Donc voilà, il y a quand même, ça c'est une illustration, mais encore une fois, on ne peut pas dire que ça soit une transformation radicale qu'on pourrait espérer, hein, mais ce n'est pas le cas. Bon, si tout le monde est mort, on passe à autre chose. Non, tout le monde n'est pas mort, il y a encore des survivants. Vas-y.
Les autorités ont jamais trouvé les mots cachés, mais on sait maintenant où elles étaient.
Non. Le secret n'a jamais été levé. Alors, je rigole pas. Je rigole pas. Le secret n'a jamais été levé. Et j'en ai un gros qui était, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui était le responsable en fait de ça. Dit dans le film de Rouault, on ne révèle pas où sont cachés, où ont été cachées les montres, parce qu'elles ont été restituées hein, à la fin du conflit. Toutes les montres ont été restituées. Avec l'état des stocks au centime près. Neuchwander le dit, dans le cadre des accords de Dole, c'était un des aspects des accords de Dole que non seulement les montres, le trésor de guerre devait être rendu, mais l'argent de la solidarité devait être rendu également. Hein. Et donc, Jeannin Gros dit dans ce film-là, on ne sait jamais, ça peut servir. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais révélé où étaient les montres. Ça peut servir. Voilà. Neuchwander, une fois qu'il a été licencié, il a été emmené dans une cache. On lui a montré une cache. Mais un truc complètement clandestin. Il était emmené de nuit, les yeux bandés, et il a pu voir les montres. Voilà. Mais il ne sait pas exactement où c'est. Il le dit hein, dans le film, c'est pour ça que je le raconte. Voilà. Ça peut servir. L'histoire n'est jamais totalement écrite. Et bon, bref, maintenant, 50 ans après... Mais non, jamais personne n'a lâché le morceau.
Mais je voulais dire aussi, dans les débats qu'il y avait à l'époque, enfin, dans les milieux notamment d'extrême-gauche, il y avait beaucoup de questionnements. En quoi ça peut être exemplaire? En quoi ça peut servir effectivement d'exemple? En quoi ça peut être joint? Et le fait qu'il y avait une production... un peu de luxe, parce qu'il fallait pouvoir s'acheter notre lit pain, même en fraude. Enfin, moi, je sais que je les ai vus passer, mais j'en ai pas acheté. Parce que c'était des montres chères, quoi.
C'est des montres très chères, oui. Ouais.
Bon, à l'époque, j'étais à la CFDT, et je connais très bien le gars, je crois qu'il est encore en vue, qui, lui, les emmenait à chaque réunion syndicale pour en proposer. C'était bien caché, hein. Mais donc, le fait qu'il y avait une fabrication d'un produit de luxe, le trésor de guerre, ça, enfin, c'est pas toutes les entreprises productives qui peuvent, cette opportunité de faire un trésor de guerre. Et donc, ça faisait aussi partie des choses qui étaient considérées comme des limites pour que ce soit un exemple rejoignable.
Complètement. Hein, l'exemple caricatural que j'exposais tout à l'heure, des centrales nucléaires. Vous fabriquez des centrales nucléaires, vous allez vendre quoi?
Hein,
ou des armes, on a peut-être pas ou des armes. Ah ben, il vaudrait peut-être mieux qu'on vende rien, parce que...
À l'époque, on pensait que, de toute façon, il fallait apprendre à servir des armes
oui.
De la bourgeoisie.
Oui, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de grève. La seule grève importante qui a eu lieu dans une usine d'armes, c'est à la Herstal, en Belgique, au début des années 60. C'est la fabrique nationale de d'armement. Hein. Et il y a beaucoup de femmes là aussi. Hein. Elles se sont bien gardées. De toute façon, il n'y a pas eu de paix ouvrière ni quoi que ce soit. Hein. Mais jamais personne n'a soulevé l'idée qu'on aurait pu vendre des armes. Non. Ça c'est bon pour les États-Unis. Oui, les distribuer. Oui, oui. Mais ça, vous allez dans n'importe quel supermarché américain. Et si vous achetez pour $200 de corned beef, on vous donne en supplément un fusil mitrailleur. Et je plaisante pas, hein, c'est pas une blague. Hein. Ils font des promos. Si vous achetez pour tant de dollars, pof, on vous donne un fusil. Alors, peut-être pas un fusil mitrailleur, mais on vous donne un fusil.
Dans les banques,
tu ouvres
un compte, c'est un flingue.
Ouais. Voilà. Et après, on s'étonne qu'il y ait des massacres réguliers là-bas, dans cette belle démocratie. Bon, peut-être...
on va rester là, ça. Hein,
je pense.
Bientôt, ouais. Je vais aller mettre à chauffer, d'ailleurs. Merci.